Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
C'était Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
France Inter. Con Alexandre Hérault.
L'Inde, si tu veux, a beaucoup d'avantages. Cette espèce de truc à 360 degrés énorme entre le magnifique, le merveilleux, le magique, le poétique et le plus pourri. C'est absolument étonnant d'avoir quelque chose qui est de l'ordre de la multiculture cosmique.
Jean-Jacques Lemaître, génial musicien, compositeur, a raison. On va faire dans cette seconde étape de notre voyage planétaire en compagnie de l'Alliance française et avec cette seconde journée passée à Pondichéry, un saut, nous aussi, à 360 degrés. Cap donc au sud de l'Inde, en dessous de Madras, aujourd'hui de Chennai, dans l'état du Tamil Nadu, à Pondichéry, dont le lustre tamoulo-colonial défraîchi continue de charmer et d'envoûter les voyageurs. Nous partons, chers amis auditeurs francophones et francophiles, à la recherche de la plus légendaire de nos troupes théâtrale et de l'utopie.
Terre d'Alliance, Alexandre Hérault, sur France Inter.
Avec cette nouvelle balade en Inde, passée dans cette alliance mythique, on va comprendre la seconde mission de ceux qui constituent la première ONG culturelle du monde. À Pondy, l'Alliance française, créée en 1889, occupe aujourd'hui deux anciennes maisons de maître du centre colonial de cette partie historique de la ville dite blanche. Il y a le siège, apaisant, à l'ombre des bougainvillées, de la rue Suffren, visité hier à la même heure, et à quelques encablures, à deux pas du front de mer, sur le golfe de Bengale, la maison Colombani récemment léguée à l'Alliance par ses héritiers d'une famille de colons créoles. Un double espace donc qui permet une double scénographie, car au-delà du flambant neuf auditorium accueillant la salle de cinéma et pouvant réunir troupes de théâtre et musiciens, l'Alliance a à sa disposition la terrasse ombragée et le jardin de rêve d'une villa enchanteresse nommée Colombani, donc, pour accueillir conférences et réceptions. L'Alliance française, on le comprend, n'est donc pas simplement un lieu où le français s'enseigne à tous les niveaux, à destination de tous ceux qui veulent s'en emparer avec efficacité, mais c'est aussi une petite machinerie d'ingénierie culturelle. En cette circonstance, l'adjectif est inapproprié, car de petit, l'événement auquel nous allons participer n'en a pas les contours. Ariane Nouchkine et la troupe du Théâtre du Soleil, presque au grand complet, est là, en résidence, pour créer son prochain spectacle qui sera livré à la prochaine saison à la cartoucherie de Vincennes. La grande dame du théâtre français était aussi à Pondy pour des masterclass données par son théâtre nomade, ainsi que toute une série de rencontres avec le public et de spectacles, dont celui de son plus ancien et fidèle compagnon, l'acteur Maurice Durosier.
On règle les derniers petits détails, Maurice Durosier.
Aline, tu peux lancer la musique ?
Oui. On improvise aussi un peu.
Faut toujours improviser hein, dans ce métier. Surtout c'est avec un spectacle loi. Comme parole d'acteur qui peut se jouer dans toutes les conditions.
Et alors là, est-ce qu'elles sont réunies ici à Pondichéry ce soir ?
Mais j'espère, oui, c'est une cour merveilleuse. J'espère surtout qu'il y aura des lycéens, parce que moi on m'a demandé de venir pour jouer pour les lycéens, donc, parce que c'est le forum des métiers. C'est un spectacle qui parle de l'acteur.
Et puis avec des questionnements qui viennent de votre fille, donc...
Oui, c'est ma fille qui m'a posé des questions, voilà, sur le théâtre.
Parce que monter sur scène, dans ce puits sans fond, c'est pas tout.
J'aime bien cette expression, puits sans fond.
Bah, c'est celle que vous connaissez que trop bien, puisque vous êtes associé depuis tant d'années, c'est celle de la patronne du Théâtre du Soleil, ouais. C'est Ariane qui le dit, Nouchkine.
Je vais lancer la musique et faire entrer le public, mais je continue à répondre à vos questions. Et puis, il y a un petit rite pour parole d'acteur. Chaque fois qu'on le fait, on accueille le public en leur offrant du chai. C'est pas parce qu'on est en Inde, mais on le fait tout le temps.
Après tout, avec le Théâtre du Soleil, c'est aussi une vieille histoire, l'Inde et le Théâtre du Soleil. Oui. On en parlera tout à l'heure, parce que pour l'instant, ça va commencer.
Oui, je règle la lumière.
Parole d'acteur, le spectacle de Maurice Durosier est une des propositions de l'offre culturelle incroyable proposée en décembre et janvier dernier lors de la présence de la troupe du Théâtre du Soleil dans laquelle Durosier joue depuis plus de 30 ans. Maurice, le saltimbanque, Durosier, le troubadour, le poète et le comédien, le gitan et, comme qui dirait, l'enfant de la balle, issu d'une longue lignée de comédiens du sud de la France. Pendant que s'installait le public, pondichérien, le grand ordonnateur de l'Alliance française, son directeur Olivier Litvin, accueillait et observait avec bienveillance.
Voilà, donc c'est dans la plus belle tradition du Théâtre du Soleil, on accueille les spectateurs avec un chai préparé spécialement. Donc, le chai, c'est un thé indien au lait avec de la cardamome, du gingembre, préparé spécialement par Maurice Durosier avant son spectacle. C'est une amorce de convivialité qui va se poursuivre pendant tout le spectacle et même après.
Qu'on appelle une rencontre, un échange aussi.
Absolument.
Et du partage.
Et du partage.
C'est les maîtres mots du Théâtre du Soleil, après tout.
Absolument. Absolument.
Je prendrais bien un petit chai.
Je l'ai déjà bu, merci.
Dès que l'on passe à la porte du théâtre, les contradictions deviennent des évidences. En scène, il y a toujours une forme. On ne bouge pas, comme dans la vie des gestes, les déplacements sont transposés. Et cependant, les émotions de l'acteur sont vraies. C'est son regard, sa respiration, tout est vrai. Les instincts les plus primaires sont actifs. Dans les scènes de rage, les nerfs sont mobilisés. La circulation du sang change. Tes tempes semblent exploser.
Oui. Bon, ok. Tu n'es pas venu voir le spectacle. Ah, d'accord. Mais demain, tu viens avec moi. Demain. D'accord. Bon, bâti.
Ça y est.
C'est un ami qui...
Maurice Durosier, vous avez retrouvé votre autre carapace, les attributs de la modernité, le téléphone portable, la petite
Exactement.
Valise. Enfin, est-ce qu'ils sont, c'est aussi autant d'outils pour exercer votre métier.
Oui, la valise surtout. Valise de voyageur. Je suis un voyageur.
Le nomade.
Nomade, oui. Exactement. C'est mon histoire comme ça. Moi, je suis né dans une famille de théâtre ambulant. Enfin, je continue le voyage de mes ancêtres.
Et qui pu se conjuguer très facilement, Maurice Durosier, avec l'expérience que vous a fait vivre dès ses débuts, le Théâtre du Soleil, donc Ariane Mouchkine. Et celle que vous expliquez d'ailleurs dans ce texte joliment, vous interrogeant comme d'autres l'ont fait avant, et avec cette sensibilité qui est la vôtre sur ce métier de nomade, de saltimbanque. Un métier que vous avez l'impression qu'on ne connaît pas trop, mais un métier que vous avez certainement envie de communiquer jusqu'à participer ici à des ateliers, à cette confrontation avec les autres, avec d'autres publics, avec cette école nomade.
Bien sûr, c'est la transmission. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris en Inde aussi. Ce qui nous a été transmis, on doit le transmettre. Et il vient un moment où on est acteur, on est toujours acteur, mais on doit transmettre l'expérience. C'est très important, surtout pour les jeunes. De toute façon, on ne vient pas de nulle part. On est ce qu'on est parce que d'autres ont transmis ce qu'on leur avait transmis. C'est comme ça, le théâtre, c'est une chaîne.
C'est un beau mot que celui de nomade. Hein. C'est une belle idée, effectivement, de transmettre et d'arriver dans des endroits comme ici, à Pondichéry. Quant à Pondichéry, qu'est-ce que vous découvrez quand vous venez ici?
Ah, Pondichéry, c'est un endroit merveilleux. C'est une Inde un peu préservée et où, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de manifestations culturelles de tous les genres. C'est un peu, d'une certaine façon, une sorte de capitale culturelle, j'ai l'impression, où des tas de styles, des tas d'artistes viennent trouver refuge. Je me sens très très bien à Pondichéry, même si, je dois l'avouer, justement, connaissant l'Inde, ayant une autre expérience de l'Inde, je me disais que la présence française allait peut-être atténuer la force et la pureté de l'Inde, mais je me trompais. Pondichéry, c'est vraiment l'Inde. Mais vous savez, c'est assez extraordinaire, hein, ce qu'a fait cette Alliance française, ce qu'a fait Pondichéry, ce qu'a fait les gens qui tournent autour de l'Alliance française et les enseignants du lycée, parce qu'on a été accueillis de manière incroyable. Moi, vu l'état de notre pays actuellement en France, assez catastrophique et où le moral est vraiment à zéro, j'ai retrouvé des Français qui avaient de l'enthousiasme, qui croyaient à la vie. J'ai retrouvé la générosité, j'ai retrouvé le désir de découverte, j'ai découvert une certaine fierté de la France, et le Théâtre du Soleil a été accueilli merveilleusement. On est logé chez des gens qui nous accueillent depuis un mois, deux mois, et qui sont très très heureux de le faire. Donc sans l'Alliance française et sans la présence des Français vivant et travaillant à Pondichéry, cette expérience n'aurait pas été tout simplement matériellement possible.
Donc ici, on redécouvre que la France, c'est aussi une idée.
La France, c'est surtout des valeurs. C'est ces valeurs qu'il faut défendre, c'est ces valeurs auxquelles il faut croire, qui sont battues en brèche. C'est très important qu'on continue à se battre et à défendre ces valeurs grâce aux luttes. Donc ici, à Pondichéry, il y a de l'espoir. Non mais j'aime bien, si ça avait été colonisé par les Anglais, ça s'appellerait Pondy Darling.
Ça vous a fait rire, ça. De toute façon, ici, ça rime aussi, on peut le faire conjuguer avec ce rêve d'Inde, qui en habite plus d'un encore.
L'Inde, c'est un pays magnifique, c'est un pays aussi d'une cruauté extrême. On avait fait un spectacle avec le Théâtre du Soleil dans les années 87-88, qui s'appelait l'Indiade ou l'Inde de leurs rêves. Ça racontait l'histoire de l'indépendance et de la partition. Voilà. Et en fait, quand on est en Inde, on s'aperçoit que beaucoup de problèmes actuels dans le monde sont la conséquence de cet événement. Cette partition ne devait pas avoir lieu. Donc l'Inde, c'est ce pays à la fois archaïque, et c'est quand même une grande démocratie.
Il y en a un qui n'a pas dormi sereinement tous les soirs, pendant le mois d'effervescence qu'a représenté la présence de la troupe d'Ariane Mnouchkine à Pondichéry, une ville plus habituée à des événements moins encombrants. Là aussi, c'est pas tout à fait le mot, disons moins ambitieux. Un peu fatigué, mais comblé, Olivier Litvine dressait le tableau des enjeux de Paris Initiative et aussi des trésors d'ingéniosité que cela avait demandé à toute l'équipe de son alliance, de ses amis et de ses membres.
Au pic du projet, ils étaient 82, du Théâtre du Soleil. Notre rôle était d'assurer le transport local, donc y compris Chennai, Pondichéry.
Ex-Madras,
Pondichéry. Le transport à Pondichéry, le logement et la nourriture. Plus usage des espaces de l'Alliance quand c'était possible. Donc il a fallu vraiment un gros gros travail de logistique.
Et puis d'appel de fonds.
Le résultat était vraiment à la hauteur des espérances. Voilà, donc on...
Ça fait de vous, Olivier Litvine, au sein de cette Alliance française, en tant que directeur, quelqu'un qui doit avoir un sens des affaires, entrepreneurial certes, mais aussi presque du spectacle.
Oui, bien sûr. Mais on est effectivement des chefs d'entreprise, parce qu'on a quasiment plus de subventions maintenant. Donc il faut, dans un contexte comme le contexte pondichérien, où il n'existe absolument aucune base économique.
Plus de subventions de l'État français, hein, c'est ce qu'il faut.
Oui, de l'État français, Il nous faut, réfléchir à un modèle possible de levée de fonds. C'est cet aspect d'implantation locale, de projet participatif qui, moi, me plaît le plus. Et de rayonnement de la culture, au service du rayonnement de la culture. Et je crois que jusqu'à présent, tous les membres du Théâtre du Soleil ont été absolument ravis. C'est un projet qui, je pense, restera dans les annales de l'ingénierie culturelle à l'étranger. Ça, j'en suis persuadé.
Et qui s'inscrit maintenant dans l'histoire, la longue histoire de ces 5 décennies du Théâtre du Soleil.
Absolument. Absolument. Non seulement un spectacle en création, ça c'est vrai, mais il y a aussi l'atelier. Et l'atelier, au dire de nombre de ces jeunes acteurs, qui sont jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui ont suivi ces 2 semaines de stage, le paysage théâtral indien est bouleversé pour les 20 années à venir.
d'Alliance, Alexandre Hérault sur France Inter.
Si l'alchimie a pu être possible entre la ville et la troupe du Théâtre du Soleil, c'est que cette dernière a trouvé refuge non seulement dans les espaces mis à sa disposition par l'Alliance française, mais aussi par ceux qui, là-bas, en sont les piliers, ses partenaires tout au long de l'année, et notamment le dynamique ancien acteur de la troupe, Kumaran Vallavan. Après des années d'exercice de son métier à l'étranger, Kumaran est retourné dans son pays natal et a fait le pari de créer sa compagnie et son théâtre à Pondichéry pour ensemencer son art, là-bas, auprès du public indien, avec des comédiens locaux très talentueux. Partons là où la troupe du Soleil a trouvé refuge, a puisé sa nouvelle inspiration dans ce pays continent, 30 ans après l'Indiade ou l'Inde de leurs rêves, cette pièce d'Heleng Tsiksu. Le nouvel épisode de la troupe du Soleil, indianisé, cela s'est passé en grande partie dans ce petit théâtre créé de toutes pièces par Kumaran, qui nous attend sur le boulevard du Front de Mer, la promenade préférée des Pondichériens, l'une des plus scéniques du globe, il est vrai.
Et là, on voit du monde et la mer, les bruits de la mer, le bruit de la ville.
Et les fameux klaxons aussi de tous les scooters et de tous les tuk-tuk.
Voilà.
Les gens ne peuvent pas s'empêcher de klaxonner.
Non, c'est surtout, on l'utilise au sens vrai du mot, c'est un avertisseur. Donc on avertit, on arrive.
Et nous, on part où?
On part au théâtre.
Vous l'avez nommé comment, votre utopie à vous?
India Nostrum Théâtre. Et le théâtre se trouve dans une ancienne salle de cinéma de l'époque coloniale qui s'appelle Salle Jeanne d'Arc. Donc nous dirigeons vers Jeanne d'Arc.
On vient de quitter la rue Surcouf, on vient de laisser l'église Notre-Dame des Anges à notre droite. Et là,
on arrive à rue Romain Rolland.
La rue Romain Rolland.
Ça doit être très drôle d'entendre des rues Romain Rolland, rue Suffren, rue Dumas, rue Saint-Louis à Pondichéry. En fait, à un moment, il y a des gens qui voulaient changer les noms. Moi, je trouve qu'au contraire, il faut garder, c'est la trace. Trace de l'histoire, de tout. De toute façon, on ne peut pas effacer les bâtiments. Nous sommes en face d'une maison, c'est une maison coloniale, avec ses bougainvilliers, si célèbre de Pondichéry. On va tout effacer, c'est l'histoire, c'est la vie.
Vous l'avez voulu comment alors, votre lieu à vous? Parce que ici, l'idée première, ça a été d'offrir aux Pondichériens un lieu culturel et avec aussi cette empreinte franco-pondichérienne, non?
En fait, la vérité, elle est un tout peu plus différente parce que moi, je suis venu en Inde avec l'idée de créer une troupe en Inde sans me dire ça va être à Pondichéry. Et trouver ce lieu qui était un peu vraiment pas utilisé, un peu fermé.
C'est un ancien cinéma, c'est ça?
Oui, une ancienne salle de cinéma. D'ailleurs, ça s'appelle Pâté Ciné Familial.
Oui.
J'ai demandé à des amis de vérifier si ça faisait partie des archives de Pâté Ciné. En fait, en réalité, c'est un faux. Bon, vous voyez, c'est son toit en tôle horrible, avec cette inscription, salle Jeanne d'Arc, 1930 quelque chose, 34. Et on a complètement transformé ce lieu, mais en fait, c'est pas du tout de l'idée de faire un lieu franco-indien, des choses comme ça. Moi, je voulais monter un théâtre. Et pour moi, vu la situation théâtre en Inde, un lieu était indispensable. Il y a très peu de lieux de théâtre. C'est pas comme en France, il y a 1000 spectacles par jour à Paris. Ici, les gens du théâtre, nous sommes très marginalisés. Le théâtre est très marginalisé.
Alors qu'il y a une grande tradition, dans laquelle puise évidemment la troupe du Théâtre du Soleil que vous hébergez ici en ce moment. C'est assez fabuleux comme aventure, celle que vous êtes en train de vivre.
Ah oui, mais ça c'est l'autre. J'ai été comédien au Théâtre du Soleil pendant 3 ans, pendant la création de Dernier Caravansérail. Je suis rentré en Inde et vous savez, on finit par reproduire les influences qu'on subit, qu'on a eu la chance de prendre. Et oui, à ce moment, c'est le Théâtre du Soleil qui est quand même un théâtre utopie, parce que c'est un théâtre qui existe depuis 50 ans, avec cette personnalité qui est une personnalité historique, Ariane Mouchkine, sont ici pour, ça fait 2 mois, ils sont là, ils travaillent, et alors nous avons la chance de partager notre lieu avec certainement une des plus grandes troupes, la plus belle troupe pour moi, ici, et elle est en train de nourrir ce lieu, de lui donner quelque chose d'extraordinaire que j'espère que nous pouvons après continuer un peu dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là.
Kouraman Valavan, ça fait de vous un directeur de théâtre absolument aux anges, parce que le lieu est en pleine ébullition, évidemment, ça frétille, ça bouillonne. On est face à ce qui s'appelle le mystère, et qui est porté au plus haut avec une troupe comme celle d'Ariane Mouchkine.
Oui, parce que la manière même de faire le théâtre, c'est pas seulement faire du théâtre, la manière de le faire, la façon de lui ajouter quelque chose. Le monde, c'est le contraire maintenant. On fait tout comme si ça n'avait pas d'importance. Comme si, oh oui, c'est presque bon, d'accord, on fait du théâtre. On rendrait chaque geste quotidien comme si c'était normal, voilà, c'est rien d'exceptionnel. Elle fait partie des grands esprits qui disent non, la vie c'est exceptionnel, chaque geste est exceptionnel, le théâtre est exceptionnel. Réunir 100 personnes autour d'un projet presque utopique est exceptionnel, il faut le célébrer. C'est quelqu'un qui célèbre la vie. Et ça, et elle l'a maintenu pendant 50 ans, parce que se faire ça pendant une semaine, un mois, un an, c'est bien facile, mais pendant 50 ans, garder cette volonté de célébrer le théâtre, célébrer la vie, célébrer le fait que les gens travaillent ensemble, célébrer l'humain, tous les jours, à chaque instant.
Alors, puisqu'on a la chance d'y être, et qu'on profite d'une pause du Théâtre du Soleil dans sa dernière semaine de création, justement, d'une pause, on est dimanche, faisons le nôtre, nous aussi, cet Indian Nostrum, ce théâtre-là que vous avez créé, on le visite, on rentre dans les lieux qui habituellement sont fermés à toute personne étrangère au projet.
Alors, l'Inde, tu veux que je te fasse une interview ?
Ah ben, L'Inde, ça serait plutôt. C'est plutôt moi qui devrais commencer comme ça, Jean-Jacques Lemaître. Alors, l'Inde.
Perfect.
D'autant plus que cette Inde est un peu la vôtre, parce que c'est quand même une aventure qui semble-t-il, à l'intérieur de cette troupe, le Théâtre du Soleil, dans laquelle vous officiez depuis 79, si je ne me trompe, en tant que grand ordonnateur de la musique, de ses inventions et de ses interprétations. Une vie, il me faudrait pour décrire tout ce que vous avez pu faire avec eux et à côté. L'Inde est très présente, il y a une forme de permanence.
Oui, toujours. Mais c'est la source du théâtre, de la musique. Je dirais de certaines formes de vie aussi de temps en temps. Et c'est bien parce que, si tu veux, c'est l'Inde et ses contradictions. C'est ça qui est magnifique. Donc en fait, c'est à la fois les découvertes et les redécouvertes de choses magnifiques et les contradictions de l'Inde, c'est-à-dire les choses que nous aussi, en les voyant, on devrait se dire, est-ce que chez nous, il n'y a pas le même merdier ? Et tu dis, ah, mais ça, peut-être que faudrait aussi, quand je reviens, et peut-être faire attention à ça. Donc c'est ça que j'ai l'Inde, parce que c'était cette espèce de truc à 360 degrés énorme entre le magnifique, le merveilleux, le magique, le poétique et le plus pourri, mais qui est aussi, et hélas, une grande partie du monde.
Comment en ce moment, et depuis maintenant 2 mois, puisque j'arrive plutôt à la fin d'un processus de création qui est en train de commencer, qui a germiné ici, comment l'Inde fertilise ce qui se met en place là, ce qui émerge, ce qui est en train d'émerger ?
L'Inde, si tu veux, a beaucoup d'avantages. C'est que d'abord, elle ne fait pas de cadeaux. Si tu n'es pas au top, alors ça va être compliqué pour toi. Mais au top dans tous les sens du terme, tu vois, au top physiquement, au top mentalement, spirituellement, tout ce que tu veux. Et tu dois être constamment en éveil, en recherche, en écoute, en regard. Tous tes sens marchent en même temps.
On peut tout imaginer d'ailleurs de ce qui va, de ce qui est en train de germer sous ce toit de tôle où j'imagine qu'il doit faire chaud parfois, même si on n'est pas en saison.
Chaud, le mot est faible.
C'est les tuves.
Ah, c'est ça.
L'école nomade du Théâtre du Soleil, c'est un de ces très beaux projets.
C'est un de ces très beaux projets parce que effectivement, on commence à avoir, comme on dit, de la bouteille. Ça veut donc dire que quelque part, il y a un moment où on commence vraiment à parler de transmission. Et donc la transmission fait que où elle va être ?
pas forcément à la cartoucherie de Vincennes à Paris. Elle peut être ailleurs, elle peut être... moi, ça fait presque 4 ans que je suis dans le monde. J'ai dû visiter 47 pays et 91 villes. Donc, j'ai vu du monde. Et simplement, il y a un moment, je dois planter des petites graines, je dois allumer des petites flammes et vont peut-être sortir un de ces jours une chose surprenante qui sera, voilà, la continuité du soleil, elle est là. En Amérique du Sud, elle est en Inde, elle est... on ne sait pas où.
Quel est le moment le plus magique que vous avez vécu pendant les ateliers donnés par l'école du théâtre ici à Pondichéry, Jean-Jacques Lemaître ?
Alors là, vous me posez une colle parce que je pense que vous n'aurez pas assez de bandes pour...
Donc, il y en a eu beaucoup.
Il y en a eu beaucoup.
Parce que vous aviez 100, quelques 100 élèves ici, acteurs venus de l'Inde entière.
Tout à fait. Mais je te rappelle qu'on a eu les grands problèmes des inondations de Chennai et de Pondy d'ailleurs. Donc il y a plein de gens qui ne sont pas venus parce que y a plein de gens qui ont dit... je ne peux pas y aller parce que j'ai ma maison qui est en train de s'écrouler, parce que j'ai les pieds dans l'eau, enfin les pieds tout dans l'eau, les meubles, la bouffe. Donc ça a posé vraiment des cas assez délirants quand même.
Alors on fait quand même un effort, Jean-Jacques Lemaître, on en trouve un de ces moments de magie qui ont pu éclore au moment des échanges, lors de ces ateliers.
C'est des moments magiques, c'est par exemple tout simplement quelqu'un qui rentre en scène. Et tu te dis à l'intérieur de toi-même, il se prépare mal, pourquoi il y va comme ça sur scène, il devrait... C'est des gens qui ont une spiritualité intérieure, qui sont environnés de spiritualité, pourquoi ils rentrent comme ça? Et ils font, you are ready? Yes, go. Et là tu vois une autre personne. Et tu fais, mais c'est incroyable, comment ils font ça? D'où ça sort, ça? Qu'est-ce qu'il a été cherché en lui pour sortir ça? Pour faire une autre personne, mais à des dimensions magnifiques. Et qui rentre en scène, juste avec une beauté, un corps, une présence, qui nous regarde, même s'il parle trois mots. Et tu fais, quelle leçon, quelle leçon. Ça sert à rien d'aller chercher du spectaculaire, du fantastique. Quelle leçon!
Tout d'abord, elle ne voulut pas. Pas d'interview. Pas question de se déconcentrer pendant l'acte de création. Et qui plus est, d'avoir l'impression d'être épié. Et puis pourquoi faire confiance à ceux qui racontent souvent mal et souvent ne comprennent même pas, ne prennent pas le temps et critiquent. Quel mot terrible! De quel droit? Quel pouvoir? Qu'est-ce que cela vaut, critiquer, par rapport à créer? Cela fait 50 ans maintenant qu'elle est la plus incroyable des turbines à créer. Mnouchkine, la femme mythe et légende, mais vivante. Et puis est intervenu Jean-Jacques Lemaître, qui a bien aimé notre rencontre chez Kumaran, souvenez-vous.
Alors, Inde, tu veux que je te fasse une interview?
Perfect. Jean-Jacques Lemaître est mon sauveur, su la convaincre. Avec le cœur, de toute façon, tout passe. Avec cette dame de cœur et de raison, cette grande dame qui a ses caprices. Ouais. Mais à Ariane, on pardonne tout. Car qui sommes-nous pour pouvoir la critiquer? Rencontre donc, dans les jardins de la maison Colombani, l'antre enchanté de l'Alliance française.
Ah oui, c'est une longue histoire pour nous, parce que on a toujours considéré l'Inde comme notre... C'est une de nos sources principales, en tout cas pour notre travail. Et l'Inde est une source, de toute façon. Et c'est une source artistique, c'est une source culturelle en général. C'est une source en péril, hein, d'ailleurs, je trouve, moi. L'Inde est toujours magnifique, mais c'est vrai que ce que je ressens de la dégradation environnementale est très très grave, et parfois, c'est vrai, je sens que des choses, des trésors culturels, absolument des trésors l'art vivant, de la danse, des théâtres traditionnels, sont maintenus à bout de bras par des artistes héroïques, certains très savants, certains jeunes qui se dévouent avec une intégrité extraordinaire, mais on ne peut pas dire qu'ils soient largement aidés, même si tout n'est pas négatif. Hein. Il y a quand même des aides. Je découvre petit à petit qu'en particulier l'état où nous sommes, le Tamil Nadu, qui est un état à la culture très très forte, très profonde, très variée, millénaire, magnifique, populaire et élitaire. Enfin, c'est... il y aurait tellement à faire pour que tout ça vive, ne se dégrade pas, ne se vulgarise pas dans le sens vulgaire du terme, mais se popularise au contraire. Bon, donc nous, on est un tout petit minuscule grain de sable. Hein, on est un petit grain de sable qui, par notre présence et notre intérêt sur certaines formes théâtrales, entre autres, certaines formes du théâtre du sud, du Tamil Nadu en particulier, ce qu'on sent, c'est que ce petit grain de sable qu'est le Théâtre du Soleil, montrant son intérêt, son respect, sa passion pour ces artistes, et leur art, et leur constance, et leur lutte, ben d'une certaine façon, ça redonne des petites forces, ça redonne des forces. Donc c'est pas totalement inutile, mais c'est petit. C'est très local, c'est petit. Et de toute façon, nous on a un mot d'ordre, si vous voulez, dans nos répétitions, c'est chercher le petit pour trouver le grand. Donc on cherche le petit.
Et pour parler des utopies que vous aimez... voire encore en route et que vous êtes capable d'ailleurs de conserver et d'alimenter. Il y en a une à côté d'ici, à une dizaine de kilomètres, qui s'appelle Auroville. Elle vous intrigue un peu ?
Moi, je trouve ça... Écoutez, vous savez, on dit beaucoup de mal sur Auroville parce qu'on dit tellement de mal de toute façon.
Sud-ouest de l'Inde, à quelques kilomètres de Pondichéry.
Canal, plus ou moins inspiré. L'effet papillon, 24 janvier 2016, ils ont appelé ça paradis pour hippies.
Nous nous enfonçons dans la jungle, à la recherche d'une mystérieuse cité. Auroville, c'est la terre promise des hippies. Dans les années 60, quelques chevelus s'installent dans la région pour y vivre à l'écart du monde, en harmonie avec la nature. De quoi attirer les touristes en quête d'un shoot spirituel. Cité universelle, ville de l'aurore... Une chose est sûre, c'est déjà un super village vacances pour anciens hippies.
Moi je trouve qu'Auroville ne fait de mal à personne. C'est déjà bien hein, dans notre monde. Et bon, alors voilà, c'est. Alors il y a des trucs un peu exaspérants, en particulier l'espèce de portrait de la mer partout, etc. Mais les gens, après tout, hein, les gens, la façon dont ils vivent, etc. Je trouve qu'ils font de mal à personne, alors peut-être on devrait tout simplement leur ficher la paix. Et c'est tout. Il y a des gens à l'ashram qui visiblement sont là vraiment pour essayer de trouver une certaine paix. Et moi, j'ai ressenti aucune hostilité à avoir vis-à-vis d'une tentative de ce genre. Même si, probablement, elle n'a pas, le problème pour l'instant, c'est qu'elle n'a pas réussi. Ça, c'est probable. Ils n'ont pas réussi ce qui était le projet initial, pas plus, hélas, que les kibbutz ont réussi, pour d'autres raisons. Mais ce n'est pas parce qu'une utopie est si difficile à accomplir qu'on doit hâter son échec. Hein. Laissons-les tenter leur expérience.
J'ai cette question qui n'est pas sortie totalement, qui ne se veut pas agressive et qui, j'espère, ne vous gênera pas, Ariane Mouchkine. Mais est-ce que vous... Finalement, au Théâtre du Soleil, vous, la mère que vous représentez pour tous ces acteurs, vous l'avez réussi, cette utopie ?
Évidemment pas. L'utopie, c'est un chemin. L'utopie, c'est un chemin, c'est-à-dire c'est quelque chose à accomplir tous les jours. Donc, l'utopie, ce n'est pas quelque chose d'impossible à accomplir, c'est quelque chose qu'on cherche à accomplir. Donc, et d'une certaine façon, c'est la perfection. Donc, on ne peut pas l'accomplir. Mais... par contre, je vais pas avoir la prétention de vous répondre que, en tout cas, ce que nous avons réussi à faire, c'est de continuer à chercher. Voilà.
The truth when it's on.
France Inter, Terre d'Alliance, un voyage planétaire au sein des alliances françaises.
You like Auroville? Very nice place area. Auroville.
You like Auroville?
You like?
You like?
Yeah, you like.
No, you.
You. You like. Very nice place.
Utopie. Utopie.
Utopie.
U.
Do.
Utopie.
Utopie. Okay.
Let's go in Auroville. Okay.
Bien sûr, on va y aller, à Auroville. Mais finalement, ça sera avec Raja, ce jeune, brillant, ancien étudiant de l'Alliance française que l'on avait rencontré hier, que l'on va se rendre dans l'utopie en marche. Auroville est un lieu que connaissent forcément tous les chauffeurs de tuk-tuk de Pondichéry, car cet endroit, qui existe bel et bien, est indiqué depuis longtemps sur tous les guides touristiques de l'Inde et parfois même, il fait leur couverture. Auroville, la ville expérimentale du penseur, du sage, du poète Sri Aurobindo, signifie aussi la ville de l'aurore. Elle est soutenue par l'UNESCO depuis le début de sa création en 1968. Ce lieu magnétique unique n'est situé qu'à une dizaine de kilomètres de la ville de Pondichéry et constitue en effet la plus belle et insolite des escapades aux environs pour les visiteurs. L'incontournable utopie en marche donc ne se rate pas et d'une certaine manière sait se vendre. Raja, notre chauffeur, qui vit à côté dans le village tamoul, qui profite plus ou moins directement des retombées économiques de cette communauté, constituant une petite ville de 2500 habitants, choisie, mais qui avait été imaginée par ses créateurs, pouvant en contenir 50 000, Raja avait pour mission de nous conduire chez l'une des plus attachantes auroviliennes de souche, née là-bas, il y a quelques 50 ans. Renou nous attendait pour le petit déjeuner et savait que l'on n'allait faire que passer dans ce monde en construction, ce qui, selon toute vraisemblance, nous excluait de la sphère des vrais connaisseurs, mais pas des curieux, dans le bon sens du terme, cela s'entend.
Mais là, c'est la route principale pour aller à Auroville, par cette côté, parce qu'il y a deux entrées, sorties. Tous les petites routes, petits chemins à Auroville, c'est toujours en terre, c'est plus écologique.
Là, c'est le temple qui est à notre droite.
Oui.
C'est immense.
Il y a un temple.
Et ce camion de touristes qui est devant nous, là, tout neuf.
Oui. Il y a beaucoup de touristes qui viennent.
Y loger, y dormir, donc.
Oui.
Venir y manger aussi.
Oui, il y a des restaurants, des temples.
Tiens, un petit bébé tout blond.
Oui, peut-être un touriste.
Peut-être un futur Aurovillien.
On ne sait jamais.
Bonjour Madame Renou. Bonjour, bonjour.
Un café, un tartine borée, quelque chose.
Wonderful. My breakfast in Auroville, mon petit déjeuner à Auroville.
Bon, excellent. Alors, voilà,
Et j'arrive à un moment stratégique de la journée, c'est-à-dire le potager.
Alors voilà, voilà ce que j'ai à planter, des fenouilles, des tomates, des salades, de la basile et puis quelques chilis. Je vais chercher aussi d'autres choses.
Ouais.
Et puis,
tous les aromatiques. C'est bien d'ailleurs de parler comme ça, à peine suis-je arrivé de ce jardin, de cette terre qu'il a fallu ici ensemencer, qu'il a fallu travailler.
Je suis content que tu parles de cette terre, parce que cette terre, elle est magique, elle est merveilleuse, comme vous voyez, elle est rouge.
Non, mais elle est difficile.
Elle est très difficile, mais c'était justement ça qui nous a pris par le cœur, les tripes et la foi pour démarrer Auroville, parce que c'était ça, à ça qu'on faisait face.
Et, ouais.
Et tous les moussons, et c'est ça qu'il fallait préserver, c'est ça qui nous a rendu ce qu'on a aujourd'hui, une forêt, comme vous voyez, où avant était vraiment désertique, plein de canyons, on pouvait voir la mer, on ne la voit plus. Donc oui, cette terre, elle est pleine de promesses et pleine d'espoir.
Renou, vous avez envie quand... Quand on parle d'Auroville, qui est l'endroit où vous avez grandi, quoi. Vous-même, vous avez poussé ici, sur cette terre.
Correct, c'est vrai.
C'est ça.
C'est vrai.
Parce que c'est quoi ici? C'est une expérience, c'est une utopie, c'est un laboratoire, c'est un rêve,
vous
réalité.
Vous venez de le dire, c'est un laboratoire en évolution, avec des échantillons de l'humanité à tous ces niveaux, qui on espère au moins... la volonté de vouloir s'expérimenter, se lancer dans pense que c'est Auroville et on ne sait pas ce que c'est.
On ne sait toujours pas ce que c'est.
On ne sait pas ce que c'est Auroville, comment on peut savoir? On a des idées de ce qu'on voudrait que ça soit, mais le monde nouveau, comment on peut le savoir? Il faut juste participer en haletant, en regardant, en comprenant et surtout en soignant la terre. Pour moi, c'est la route qui est le plus intéressant et moi, je suis beaucoup plus excitée par la découverte et l'expérimentation de tout ça, dans tous les sens, que ce soit physique, psychologique. C'est tout ça qu'il va falloir trouver parce que avec ce qu'on voit maintenant avec la Terre, c'est vraiment une autre façon d'exister qu'il va falloir trouver, une autre langue, une autre compréhension, une autre... Donc voilà, ici, ça, c'est pas du tout réussi, mais justement, au moins, il y a une place pour expérimenter tout ça avec ce but.
Je craque au petit déjeuner, ce qui est un peu, pas dans mes habitudes diététiques, pour un peu de fromage.
Allez-y, allez-y.
Juste parce que c'est du fromage d'Auroville.
Voilà. Ouais. Mais enfin, ce fromage, il faut le tester, allez-y.
Et vous, vous avez mangé de la vache enragée?
Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est très simple. Tu me demandes qui je suis, non? C'est ça que tu m'as demandé.
Juste le prénom.
Alors, mon prénom, c'est Oiseau, W-A-Z-O. Voilà. Donc, quand je suis revenu de ma première expérience à Auroville, je suis retourné en France. Comme je suis un performeur, théâtre de rue, théâtre contemporain, différents trucs, il fallait trouver un nom. Il fallait en 10 secondes que je me présente comme à des mecs comme toi. Je disais, salut, je suis un cryptomnase, je suis un nomade polyphonique néo-urbain, nouveau punky, bio-anarchiste, je suis comme tout le monde, comme personne et comme certains. Ciao.
La messe est dite.
Voilà. Tout a commencé à cause de ça. C'est le refus de... Ça peut, enfin, moi, personnellement, c'est un choix. C'est un choix politique, un choix conscient, de dire... Ma première aspiration, c'est des interrogations. Au départ, c'était sur la révolte urbaine, sur la révolte sociale, économique de notre génération. D'accord ? Et Schrobindo était intéressant pour moi parce que il faisait partie de ce qu'on appelle parmi les révolutionnaires, hein, des gens qui ont préféré Che Guevara, ici, cela, Beaumont, chacun choisit ses trucs. Hein. Moi, d'un seul coup, je suis passé, disons, que la réponse ne pouvait plus se trouver par la raison, par des questions scientifiques ou d'analyse sociologique ou situationniste. C'est pour ça que j'ai, à un moment donné, une crise totale. Il fallait que je trouve quelque chose. Donc, quitte à crever au bord de la route, il n'y avait plus rien. Le punk, qui est nos futurs, fuck off, everybody, il doit retrouver une lumière. Et comment il fait? Tu crois que c'est en lisant les trucs du Parti Socialiste ou tous les médias, c'est ça? Il faut que tu traverses en toi toutes sortes de crises qui font qu'à un moment donné, tu deviens un nouveau punky. C'est-à-dire un mec, il ne peut plus dire nos futurs, il est toujours pas mort. Et tu te retrouves dans la cité du futur. Voilà à peu près où on en est.
Et ça, quand je vous écoute, Oiseau, et que je me retourne vers Renaud avec cette interrogation pour lui demander d'y répondre, surgit donc justement cette idée-là qu'il y a autant d'Auroville que d'Aurovilliens.
Oui, je suis d'accord avec ça parce que je pense que l'utopie pour chacun, c'est un vœu très personnel et c'est inventé par son propre expérience, traumatisme, espérance. Donc pour chacun, c'est très personnel. Et donc c'est pour ça qu'il y a peut-être beaucoup de conflits pour le réaliser ici, quelque part, parce que chacun a un idéalisme très profond, c'est très personnel. Donc l'idée de l'autre, c'est très dur à accepter parce que ça demande à élargir son propre idée de l'utopie.
Fais-moi un bruit, la mermée.
Ah, ok, ok.
Allez, monte. Allez, vas-y, grimpe, passe la jambe. Relève les pieds. Et on y va. Au revoir, à tout à l'heure. Allez. Regarde cette jolie voix ensoleillée. Ça aussi, c'est des mandiers. Là aussi, c'est des mandiers. Et là, à fur et à mesure que les manguiers meurent, je plante avec du bois. Regarde tout ce teck que j'ai planté ici. Alors, dans 70 ans, quelqu'un va pouvoir faire des belles meubles pour Auroville, j'espère.
Bonjour.
drôle d'endroit pour une rencontre.
Salut Alexandre, ça va?
Je pensais pas vous retrouver ici, Fred. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans une région qui avait ses vertus aussi, puisque ouais. C'était la petite Camargue.
Ouais, exactement.
En pause après la sixième saison du monde de Martin. Martin est en face de nous, là.
Ah, voici Martin, oui, c'est mon fils, qui rentre de l'école. Pour la première fois de sa vie, il va à l'école, ainsi que Chine, sa sœur, ce qui est plutôt sympathique. Il apprécie beaucoup. Et oui, on était en pause de tour du monde, et en fait, il y a quelque chose qui nous manquait. Et on a été attiré comme par un aimant, par Auroville.
Comme voilà. si ça cristallisait finalement ce que vous avez pendant ces six saisons donné à voir aux téléspectateurs par le biais des yeux et des oreilles de votre fils Martin, qui vous appreniez tout ce qu'il pouvait y avoir de positif sur cette planète pour qu'elle crève pas tout simplement.
Exactement, ouais. C'était le but de cette série, c'était d'aller rencontrer des gens qui ont des good practices, comme on dit en anglais, qui ont des belles idées pour le monde de demain. Le monde de Martin, c'est pour ça que le programme s'appelait Martin autour du monde d'ailleurs. Et puis finalement, on s'est aperçu que rien ne sert de vouloir changer le monde si on ne change pas nous-mêmes en premier, figure-toi. Et ici, c'est quelque chose qui est dans la tête de tout le monde, c'est de faire évoluer un peu nos consciences pour passer un peu à autre chose, quelque chose de sans doute plus intéressant que ce que nous vivons actuellement. Il y a vraiment, je pense que l'époque se prête à ça, et il y a un afflux de gens maintenant du monde qui sont attirés par ce magnète, et de plus en plus, ouais. On est loin d'être les seuls.
Mais vous êtes devenu, Fred, vous êtes devenu Aurovilien?
Alors pas encore. Il y a un an qu'on appelle les newcomers, où on voit si vraiment Auroville est fait pour nous ou pas. C'est-à-dire que c'est quand même un peu particulier, on change d'idée pour tout. L'école est très différente, le dogme de l'argent est complètement revu. C'est un grand changement, c'est un énorme changement quand même la vie ici. C'est pas simplement comme ça la méditation, etc. C'est vraiment un changement profond et une autre façon de voir. Donc avec Martin, on est arrivé ici, c'était pour visiter des projets pour vivre en harmonie avec la nature. Donc Martin, tu te souviens de ce qu'on avait visité ?
Oui, on a visité l'eau tourbillon.
Alors, l'eau tourbillon, c'est le vortex, c'est pour nettoyer l'eau et pouvoir l'utiliser dans les jardins. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ?
Il y avait aussi le maître mandir, il y avait la grande parabole sur le toit de la Solar Kitchen, il y avait les briques en terre compressées.
Ça, c'est pour construire avec de la terre sans faire de feu, sans avoir besoin de cuire les briques.
Il y avait
on avait
quoi ?
Vu aussi les maisons construites avec des briques de lait.
Ah oui.
Avec des tétrapacks recyclés. On avait vu plein de... En fait, on avait visité plein de... Il y a plein de bonnes idées. Ce qui est fou aussi, c'est que les gens ici, ça fait... ils n'ont pas attendu que l'écologie soit à la mode pour le faire. Ça tombait sous le sens. Donc dès le début, ils ont travaillé dans un sens respectueux de l'environnement. Ça aussi, je pense que ça va avec la conscience. C'est qu'à un moment, c'est automatique. Tu n'as pas besoin d'être éduqué pour ça. Ça fonctionne automatiquement. Et notamment soigner la nature. C'est-à-dire que pour soigner l'homme, il a fallu soigner la nature d'abord. Les pionniers sont arrivés, on a dû te le raconter, sur un plateau désertique. Aujourd'hui, c'est une forêt magnifique. C'est un pari incroyable. C'est à peine 50 ans.
Et 2 millions d'arbres qui ont été plantés.
Mais tout ça, c'était naturel. Il n'y a pas eu besoin de réfléchir, on n'a pas eu ou d'être guidé, ou il n'y a pas eu d'éducation pour les enfants. Tout ça, ça s'est passé de façon complètement naturelle. Et le travail intérieur... Donc, le travail spirituel, qui n'a rien à voir avec la religion, à nouveau, c'est un spirituel qui veut dire travail intérieur, chez les enfants, il est naturel aussi. Ça a du sens pour eux, voilà.
Donc, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, comme dirait l'autre qu'on ne nommera pas, parce qu'on ne sait même pas si c'est vraiment ça qui a été dit. Il ne sera pas religieux et il sera donc aurovilien.
Rien à voir. Ouais. Ah, aurovilien. Auroville, c'est un laboratoire. L'idée, ce n'est pas Auroville pour Auroville, c'est Auroville pour rayonner ensuite l'expérience ailleurs. Sinon, ça n'aurait pas de sens non plus. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a cette phrase, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas.
Il fait 100% ici.
De quoi ?
La mobilette qui est là-bas, c'est la mobilette électrique qui est faite à Auroville. Alors, bienvenue sur ma moto, qui, comme tu le vois, est une petite moto très modeste, qui doit avoir 50 ans, je ne sais pas quel âge elle a, mais elle fonctionne très bien. C'est une moto qui est faite et qui est adaptée vraiment à l'Inde, c'est-à-dire que tu peux monter à 4 personnes sur cette moto, elle ne pliera pas. Donc elle va tenir ton poids.
C'est gentil, merci.
Ah, le cochon. Ah, c'est pas un indien que j'ai derrière, je te le dis. Hein.
Les tasses s'entassent, on s'embrasse, on s'enlace. Le temps qui passe, de se voir, on s'enlace. Devant la glace, ça passe ou ça casse. Y a plus l'espace, on laisse la place. Libre équilibre, des corps qui vibrent, de la tendresse, de nos caresses. Faudra quitter nos habitudes pour reprendre un peu d'altitude. Davis, Davis, des abysses propices. Amour complice des jardins de délices. Sur les indices de nos cicatrices. Où l'on se hisse, j'ai peur que ça glisse. Libre équilibre des corps qui vibrent. De la tendresse, de nos caresses. Faudra quitter nos habitudes pour reprendre un peu d'altitude. Les tasses s'entassent, on s'embrasse, on s'enlace. Le temps qui passe, de se voir on s'enlace. Devant la glace, ça passe ou ça casse. Y'a plus l'espace, on laisse la place. Libre équilibre, des corps qui vibrent, de la tendresse, de nos caresses. Faudra quitter nos habitudes pour reprendre un peu d'altitude.
Terre d'Alliance,
France Inter.
Tierra de Alianza.
Pondy, c'est fini cette fois-ci. Et Auroville, ça continue bien sûr. Et nous, samedi prochain, à la même heure, on partira pour entamer notre troisième étape de deux jours à nouveau en Terre d'Alliance, en restant sur le continent asiatique, mais pour nous rendre dans une ville, la capitale méridionale de la Corée du Sud, que peu de monde ici connaît, Busan. Notre contribution, en quelque sorte, à la célébration de l'année de la Corée en France qui se poursuit jusqu'à fin décembre. Nos plus vifs remerciements aujourd'hui s'adressent évidemment à Olivier Litvin, le directeur de cette étonnante et magique alliance française de Pondichéry qui doit beaucoup à son dynamisme et son érudition. N'hésitez pas, chers voyageurs d'ailleurs, à la visiter et à participer à ses activités lors de votre séjour à Pondichéry. Remerciements aussi à toute l'équipe administrative et pédagogique de Litvin et puis celle restée immobile au siège de l'Alliance à Paris, notamment Sylvia Alex et Anne Garance Primel. Une pensée chaleureuse pour leurs coups de main précieux sur place à Chloé Sanchez, Jean-Marie Baron, Claude Jouan, Krishna et Christophe, Akash Kapoor, Tapas Bhatt et Maurice Choukla. N'oubliez pas de rejoindre notre page Facebook Terre d'Alliance et de vous rendre sur le site franceinter.fr à la page de l'émission qui contient un bonus multimédia conséquent élaboré et mis en ligne par notre attaché d'émission Léa Minot, secondée par Rachel Schiss, notre stagiaire, programmation musicale Thierry Dupin, mixage Juliette Delperroux, une série réalisée par Bertrand Chaumeton et proposée par Alexandre Hérault.